Bonjour et bienvenue sur Jury Geek et compagnie, le podcast des enjeux du numérique pour le grand public et les entreprises françaises. Moi c'est Nathalie et dans cet épisode, je cherche à y voir clair sur les NFT vendus au public mais qui pourraient être une lessiveuse du blanchiment d'argent. Avec une croissance de 21 350% en 2021, le marché des NFT serait-il aussi le paradis des fraudeurs et des cybercriminels ? Hermès a dû engager des poursuites judiciaires à New York contre un artiste qui a créé des NFT représentant des sacs en fourrure fortement inspirés d'un célèbre sac de sa marque. Acheter un NFT avec des actifs récupérés illégalement, puis le revendre et disposer alors d'argent propre, qui n'a plus de relation avec l'activité illicite d'origine, c'est du blanchiment d'argent, oui les amis. Mais qu'est-ce qu'un NFT ? Faut-il être un geek à capuche ? Pour en créer, les NFT sont-ils réellement un Eldorado du cybercrime ? On découvre ça tout de suite. Les NFT sont des tampons virtuels apposés sur des objets numériques grâce à la blockchain, la technologie qui supporte les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Les NFT sont donc des actifs cryptographiques ou crypto-actifs qui ont la spécificité d'être uniques car ils reposent sur la base de normes techniques permettant de les identifier individuellement malgré de multiples transferts potentiels. Ces jetons fonctionnent donc comme des certificats de traçabilité inaltérables qui garantissent que l'objet acheté est bien l'original, unique et irremplaçable, et non une des nombreuses copies diffusées sur le web. Les artistes se sont surtout servis des NFT pour vendre leurs créations certifiées et créer une sorte de marché de l'art virtuel. Puis ce marché, né en 2017, a saisi d'autres domaines, tweets, vidéos d'exploits sportifs, gaming, œuvres d'art virtuelles. Les jetons non fongibles sont utilisés pour des projets significatifs dans différents domaines industriels, par exemple leur développement dans le métavers est considéré par beaucoup comme stratégique. En France, les fans du Stade toulousain se voient proposer des NFT pour obtenir une écharpe personnalisée et nominative, à condition toutefois d'être un expert en jeux de hasard et de technologie numérique. D'après ce que j'ai compris, le 5 juin prochain, tu devras cliquer sur des liens ou scanner un code QR diffusé à un certain moment lors du dernier match face à Biarritz. Ensuite, certains participants seront tirés au sort, d'autres NFT seront vendus en euros ou en Ethereum. Mais ce que j'ai bien compris, c'est que l'opération va rapporter au club environ 225 000 euros. Dessine-moi un mouton. Oui, c'est déconcertant, mais créer un NFT en 2-2, en fait, c'est possible. Après avoir demandé à sa fille de lui dessiner un avatar à son effigie, Lise Estelle Bro a ensuite frappé celui-ci sur la blockchain Ethereum, puis l'a publié sur une place de marché. Je précise que Lise Estelle Bro, c'est la directrice principale du département Données, FinTech et Innovation de l'Autorité des marchés financiers québécoise. Alors, puisque cette technologie est visiblement simple à employer, mais qu'elle est extrêmement sécurisée, quels sont les risques qui ont pu être identifiés en termes de fraude ? C'est le J5 qui a publié début 2022 un rapport avec des indicateurs de fraude forts qui ont été répertoriés. Le J5, c'est le groupe formé par l'Australie, le Canada, les Pays-Bas, les États-Unis et le Royaume-Uni à la suite de l'affaire des Panama Papers de 2016. Donc, ces indicateurs de fraude sont un réseau de parties émettrices et réceptrices pour la même transaction ou groupe de transactions, ou alors des NFT clairement surévalués ou sous-évalués qui sont négociés fréquemment dans des délais courts. Ça peut être aussi l'augmentation artificielle de la valeur de vente grâce à une série d'opérations entre comptes liés. On appelle ça le trading de lavage et apparemment ce serait le principal risque. Des NFT nouvellement créés qui se vendent immédiatement à des prix élevés qui ne correspondent pas aux autres NFT de la collection. Ou alors des NFT qui sont vendus pour des sommes importantes et rachetés auprès de la même partie ou d'un tiers pour des montants plus faibles. Donc voilà les risques de fraude potentiels auxquels seraient confrontés les acteurs du marché qui doivent donc savoir quoi demander aux partenaires et aux clients potentiels. Le premier axe consiste donc à améliorer les mesures de détection des fraudes par les autorités chargées de l'application de la loi, donc des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce travail est mené par la communauté internationale dans des instances réglementaires telles que le GAFI, c'est le groupe d'action financier. C'est une organisation intergouvernementale axée sur la définition justement de normes harmonisées. Il publie régulièrement des conseils pour recommander aux pays comment ils peuvent construire un cadre réglementaire pour répondre à ce problème spécifique. Dans sa dernière mise à jour d'octobre 2021, le GAFI indique justement que les NFT devraient être traités comme n'importe quel autre actif virtuel et donc être soumis à l'ensemble complet des obligations anti-blanchiment. Dans l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui a proposé d'étendre le champ d'application du droit européen anti-blanchiment au secteur des cryptoactifs, pour obliger tous les prestataires de services à appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leurs clients. Le texte prévoit que les portefeuilles anonymes de crypto-actifs seront aussi interdits. En revanche, quand les crypto-actifs ne sont pas couverts par le règlement financier de l'Union européenne, les consommateurs et les investisseurs sont exposés à des risques substantiels. Surtout que certains États membres ont déjà mis en place des règles sur mesure au niveau national pour ces crypto-actifs. Cela conduit à une fragmentation réglementaire. La Commission européenne a donc fait une proposition d'harmonisation du régime réglementaire des marchés de crypto-actifs avec le projet de règlement appelé MiCA, c'est l'abréviation de Markets in Crypto Assets. L'initiative vise à soutenir l'innovation et la concurrence loyale en créant un cadre pour l'émission et la fourniture des services liés aux cryptoactifs. En France, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui publie la liste noire des sociétés et sites non autorisés. Donc en cas de doute sur une proposition d'investissement, on peut directement se connecter à la page de l'AMF, AMF France, dans l'onglet « Protéger son épargne » et sélectionner les crypto-actifs pour voir apparaître le niveau de risque d'arnaque en réalité, puisque les sites sont référencés. Et également, bien sûr, comme d'habitude, quand vous recevez un message d'un émetteur que vous ne connaissez pas, qui vous promet des rendements très élevés et sans risque, on retrouve bien sûr tous les signaux du hameçonnage de base. Donc méfiance. Et voilà, cet épisode de Jurygeek et compagnie est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager. N'hésitez pas aussi à me dire quel sujet vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt et d'ici là, longue vie et prospérité à vous.